بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نغمسيون الله عز وجل qui nous donne la possibilité donc de reprendre les programmes concernant les grands signes de Qiyama après la rupture hein, par rapport au Hajj, par rapport à l'organisation du Hajj, et nos invités également qui sont partis au Hajj avec le concours. Donc il y avait toute une logistique à mettre en place. Et donc alhamdoulilah, à partir de ce soir on reprend et on a une bonne nouvelle déjà. La bonne nouvelle c'est que à partir de ce jour, de ce mardi inchallah, on aura une personne qui va alterner avec nous les cours hein, c'est ce que je recherchais depuis hein, j'ai presque honte de le dire, depuis 2 ou 3 ans chercher quelqu'un qui pourrait alterner les programmes un mardi sur deux. Alhamdulillah, Mufti Hassad, notre imam, donc il fera un mardi sur deux. Donc aujourd'hui, là, on fait ici en ville, et quand je serai à Montreuil le mardi prochain, Mufti Hassad, donc il va faire ici au centre-ville. C'est-à-dire, au moins, il y a un repère. Tous les mardis soirs, il y a un programme. Comme tous les lundis soirs, Mouli Bagat fait un programme, ben, nous, c'était une fois sur deux, une fois sur trois. Donc là, il y aura quelqu'un qui prend le relais. Donc, alhamdulillah, tous les mardis soirs, il y aura également un programme. Ça, c'était une nouvelle très intéressante qu'on attendait depuis pas mal de temps. Et Allah a facilité, alhamdulillah. Alors, on rappelle de quoi on parle. On parle des grands signes de Qiyama. Et quand on parle des grands signes de Qiyama, ça commence par Imam Mehdi. Imam Mehdi vient dans une époque de trouble où les musulmans sont persécutés, opprimés, où l'islamophobie atteint son apogée. Et ça ne se limitera plus à des paroles, mais à des actes, à des tueries. On pourrait même dire des génocides, on pourrait dire des génocides, parce que les textes parlent de personnes qui, lorsqu'ils affirment leur foi, ils sont immédiatement assassinés, tués. On voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui, alhamdulillah, mais viendra une époque où il y aura un tel degré de fitna, l'islam va connaître telle difficulté qu'Allah Azza wa Jal va envoyer Al-Mahdi. On avait ensuite parlé de Ad-Dajjal. La bonne nouvelle c'est Mahdi, la mauvaise nouvelle c'est Masih al-Dalala, Ad-Dajjal, qui va être le qaïd, qui va être le chef, hein, le responsable hein, des forces du mal hein, on pourrait dire ça comme ça. Et Al-Mahdi va lutter avec les musulmans qui sont avec lui, il va lutter contre Ad-Dajjal. Mais à un moment donné Al-Mahdi va passer le relais à une troisième personne, et là c'est le troisième grand signe de Qiyama qu'on avait abordé et sur lequel on s'était un peu attardé, c'était le retour de Isa alayhi salam, le prophète Isa alayhi salam, qui à la fin des temps revient par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc ça fait 3 grands signes de Qiyama qu'on a déjà vus. Et ce qui est caractéristique du règne de Isa alayhi salam, c'est que à son époque, il y a 3 signes, il y a 4 signes de Qiyama en même temps. Qui peut me dire les 4 signes de Qiyama à l'époque de Isa alayhi salam? J'arrive? Non, ah, ça c'est bien après ça. Isa, enfin Isa Gangama, on parle de celui qui est avec nous. Quelqu'un d'idée? Les 4 signes de Qiyama présents à l'époque de Isa alayhi salam. Le Mahdi, parce qu'il rencontre le Mahdi. Et après un salat fajr, il prend le relais à Al-Mahdi. D'accord? Deuxième grand signe, Dajjal. Parce que quand il est avec Al-Mahdi, il prend le relais et il prend la tête de l'armée. Parce qu'on parle d'armée là. À la fin des temps, on rigole plus. Hein? C'est des guerres. Donc, il prend la tête de l'armée des musulmans pour affronter l'antéchrist qui est juste à l'extérieur, Ad-Dajjal. Donc ça fait 2 signes de Qiyama. Le troisième, ben c'est lui-même, lui, Isa alayhi salam, lui c'est un grand signe de Qiyama. Et quatrième grand signe de Qiyama, c'est, comme vous l'avez dit, Ya'juj wa Ma'juj. Et on s'était arrêté sur ce grand signe, Ya'juj wa Ma'juj. On avait fait à peu près 4 leçons, 4 durus sur Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog. On avait commencé Gog et Magog en expliquant qui sont ces créatures, d'accord? Et puis, on a remplacé créature par être humain, quand on a essayé de comprendre et de d'élucider un petit peu hein, les mystères autour de Gog et Magog, tout ce qui se dit, tout ce qui circule un petit peu comme rumeur à propos de Gog et Magog, et de statut de créature, toujours des créatures aussi, on a vu que c'était des êtres humains avant tout, comme vous et moi, d'accord? Même constitution, mais avec quelques différences. Et on avait donné une interprétation générale, différente certainement sur le plan génétique. Parce qu'on a vu l'espérance de vie de Gog et Magog qui est énorme, gigantesque. Et on a vu le nombre d'enfants également hein, qu'ils peuvent avoir avant de mourir.
Et on est arrivé vers la conclusion que, sachant que ce sont des descendants de Noé, de Nuh alayhi salam, possible, il est possible, et qu'ils existent depuis l'époque de Dhul-Qarnayn. C'est-à-dire, ça remonte à, alors, j'ai pas les chiffres, je suis pas très fort en chiffres, mais on verra bien les chiffres dans un instant. Donc, un peu, on va dire, après Moussa alayhi salam, c'est là que Dhul-Qarnayn, enfin, parce que par rapport à l'historique de Dhul-Qarnayn qu'on avait vu, on peut dire que c'était juste après l'époque de Moussa alayhi salam. Donc, depuis cette époque, ils existent, descendants de Nuh alayhi salam, du côté de Yafith, hein, si je ne me trompe pas, ben on peut dire que certainement, ils ont gardé le caractère, les caractéristiques génétiques des personnes, des populations anciennes. Ce qui fait qu'ils ont une espérance de vie exceptionnelle et qu'ils peuvent donc engendrer grand nombre d'enfants et qu'avant qu'un Gog ou un Magog meure, il a déjà donné naissance à plusieurs enfants qui sont grands, qui montent déjà à cheval, qui sont prêts déjà à se battre. Donc, on a vu donc les différences entre ces humains et nous. D'accord ? Mais on a vu les points communs aussi. Se marient, société organisée, ils mangent, ils boivent, etc. D'accord ? Et ils mangent, ils boivent normalement. Enfin, normalement. Sauf qu'à la fin des temps, ils vont tout manger, tout boire. Bref, ils vont tout détruire sur le passage parce qu'ils sont, je ne sais combien de fois plus nombreux que la race humaine. Et ça, on avait vu également le hadith qui dit que Gog et Magog constituent 90 poissons de la race humaine. De la race humaine. Maintenant, on a dit que, sachant que Gog et Magog, ça fait partie des croyances de Yom al-Akhir, il y a donc une part de Al-Ghaib. Al-Ghaib qui veut dire l'invisible. Et nous, qui sommes-nous? Al-Ladina yu'minuna bil-Ghaib. Nous sommes ceux qui croient en l'invisible. Il y a donc une part de Ghaib, d'invisible, dans Gog et Magog, dans Ya'juj et Ma'juj, ce qui fait qu'on ne doit pas comparer, on ne doit pas comparer l'existence de ces créatures par rapport à l'espace, par rapport au temps, avec notre conception de l'espace et du temps. Autrement, on arriverait à la négation totale de l'existence de Gog et Magog. Parce que si on sait qu'ils représentent 90% de la race humaine, donc ça fait combien de fois plus nombreux que nous, ça? 9 fois, non? 9 fois plus nombreux que nous. Ben où sont-ils? Où sont-ils? Comme on a vu, je ne sais pas si on a déjà vu, ou c'est par la suite, oui, on avait donné quelques indications sur l'endroit où il serait, près de la Russie, Mongolie, Caucase, frontière de la Chine. On se dit que s'il y avait, on va dire, 5, 6, 7, 8, 9 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains dans un endroit, ça se saurait. Il y a combien de la population de la Chine? C'est combien? Ça dépasse 1 milliard? Il dépasse, hein? 1,6 milliard, d'accord. Et vous voyez, hein, la Chine, c'est pas un petit pays, hein, près d'1,6 milliard. Déjà, vous avez tort. Parce que tous les 3 secondes, il y a un Chinois qui naît. Donc, c'est plus 1,6 milliard, c'est 1,6 milliard et 1 et 2. D'accord? Donc, c'est des professeurs de géographie, nous apprenons à l'école. D'accord? Donc, voilà, pour revenir à ce qu'on disait, 1,6 milliard, c'est sur un continent gigantesque. Mais 10 ou 12 milliards, je ne sais pas, s'ils sont 90% de la race humaine, ben où est-ce qu'on les casse tout ça? Ça se saurait s'ils étaient à un endroit. Mais ça, c'est la hikmah d'Allah. En tant que mu'min, on a croyance, yaqin, que certes, ils existent, certes, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et ils sont là où Allah le veut, même si on ne les voit pas, on ne les entend pas, même si, sur un plan statistique, par rapport aux chiffres, par rapport aux règles, aux lois physiques, ils ne peuvent pas être à un endroit sans qu'on les voit. Je ne sais pas, il y a une population, ça se verrait par satellite, caméra infrarouge, je ne sais pas tout. D'accord? Ça se saurait. Mais non, si Allah a décidé qu'il reste caché, il reste caché. Celui qui est capable de faire en sorte qu'une fourmi noire sur une pierre noire soit cachée et pas visible, Allah est capable de faire en sorte que 10 milliards de personnes restent cachées jusqu'à un moment donné. Ça, c'est là. Qudrat d'Allah Azza wa Jal. Celui qui était capable de faire sortir Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, complété, devant un attroupement de Quraysh, de Qurayshite, de responsables de plusieurs tribus qui étaient autour de sa maison à Mecca, sabre, épée à la main, qui l'empêchait de sortir de sa maison. Il est sorti, aucune personne de la tribu de Quraysh n'a vu le Prophète sallallahu alayhi wa sallam passer. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Celui qui était capable de faire sortir le prophète devant une armée avec épée à la main qui voulait le tuer quand il devait quitter sa maison pour aller à Madina Munawwara, celui qui était capable donc de faire en sorte qu'il passe devant eux sans qu'ils ne le voient, est entièrement capable de cacher une population de 10 milliards ou plus de personnes, Gog et Magog, et de faire en sorte qu'ils ne deviennent visibles qu'à la fin des temps. Oui ou non? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Également, celui qui était capable de cacher An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr dans la grotte alors que le mécréant était devant, est capable de boucher les yeux de toute la création et que personne ne les voit. Et on avait vu cette règle également concernant Ad-Dajjal. Vous vous rappelez, il y a je ne sais pas combien de temps, qu'on avait parlé de Dajjal, on avait dit qu'il existe. Les Sahaba l'avaient vu, hadith rapporté, je ne me trompe pas, par Muslim. Les Sahaba l'avaient, certains Sahaba l'avaient rencontré sur une île. Certaines personnes l'avaient rencontré sur une île et ils se sont convertis. Ils avaient raconté l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait dit qu'on a conviction que Dajjal, l'antéchrist, existe, qu'il est à un endroit, mais Allah seul sait où il est. Et la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah veut que personne ne découvre l'endroit où vit Dajjal jusqu'à ce que sa mission commence réellement. Là aussi, on aurait pu dire que oui, mais il existe depuis les sahaba qu'il avait vu, ce qui veut dire qu'il existait peut-être depuis avant. Donc, quelle espérance de vie depuis donc 1400 années que Dajjal existe, ou peut-être 1500, peut-être 1600 années. Donc, humainement, c'est pas possible, génétiquement, c'est pas possible, mais justement, c'est pas possible, on va dire, selon la logique humaine, selon la biologie que nous connaissons, selon les lois physiques que nous maîtrisons. Mais Dajjal a une part de ghaib, d'invisible également en lui, régi par Allah Azza wa Jal, car en faisant partie des signes, grands signes de la fin des temps, et les grands signes de la fin des temps n'obéissent pas aux lois physiques, aux lois des êtres humains, mais obéissent aux lois du monde de l'au-delà. Donc ça qu'il faut qu'on intègre. Maintenant, qu'on avait parlé de Ya'juj et Ma'juj, on avait donc présenté cette race, on avait essayé de définir également le lieu géographique où se trouve Ya'juj et Ma'juj, et on avait dit que pour bien comprendre l'histoire de Ya'juj et Ma'juj, on doit connaître l'histoire d'un homme. Celui qui est à l'origine de l'emprisonnement de Gog et Magog, qui se nomme Dhul Qarnayn, dont l'histoire est citée dans le sourate Kahf, dans la sourate Kahf. Et ce qu'on avait dit de Dhul Qarnayn, on s'était appuyé sur un ouvrage extrêmement intéressant, écrit par un savant contemporain. Il l'a écrit en 2003, enfin, ça a paru en 2004-2005. C'est un homme qui a fait beaucoup de voyages et beaucoup de recherches, et donc on avait expliqué que c'était un manuel, enfin ça c'est, ce livre est consacré essentiellement à Dhul Qarnayn et Gog et Magog, et on avait vu que basé sur des faits historiques, sur des études comparatives d'histoire, il est arrivé à la conclusion que Dhul Qarnayn est un des descendants des empereurs d'Égypte, et principalement de, hein, son nom est vraiment compliqué, Akhnaton IV. Alors, dernière fois qu'on avait parlé de Gog et Magog, de justement de Akhnaton et l'Empire égyptien, ben, j'ai mis en avant un petit peu les manquements, hein, tout ce qu'on a oublié en termes d'histoire. Aujourd'hui, quand on va parler de géographie, j'espère que je ne vais pas dévoiler toutes mes lacunes en géographie. Donc, on avait vu que descendant de Pharaon, et de ce Pharaon, parce que Pharaon, c'est un titre, Pharaon, comme César, c'est un titre, descendant de ce pharaon qui s'était opposé à Moussa alayhi salam. Et que dans la cour, parmi les sujets de Pharaon, il y avait un seul croyant. Et quand, s'il y en a qui sont hafidh al-Qur'an, quand on lit l'histoire de Moussa alayhi salam, il y a toujours un thème qui revient, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Un homme croyant parmi les Ali Pharaon, parmi la famille, les proches de Pharaon. Et il faisait des remontrances à Pharaon à chaque fois. Et au ministre corrompu qui était avec Pharaon. À chaque fois, il disait des choses. Ataqtuluna rajulan an yaqul rabbi Allah Comment ça? Vous allez le tuer parce qu'il dit que mon Dieu, mon Seigneur, c'est Allah. Imaginez qu'il dit vrai. Qu'est-ce qui va vous arriver? Il faisait des remontrances à Pharaon. Le seul, et en commentaire, on ne va pas répéter tout ce qu'on a déjà dit, le seul qui se pouvait, qui se permettait, pardon, et qui pouvait faire des reproches aussi directs à Pharaon devant les ministres, c'est quelqu'un qui fait partie de sa famille. Autrement, Pharaon, il rigole pas. Il l'aurait exécuté immédiatement. Donc, en étudiant un peu les textes du Coran et les hadiths qui décrivent ces histoires, et en étudiant l'histoire d'Égypte, d'accord, ce savant est arrivé à la conclusion que cette personne, donc Dhul-Qarnayn, c'est cet homme qui était proche de Pharaon et qui a hérité du trône de Pharaon. Mais il a hérité d'un trône affaibli. Pourquoi ? Salih, qui était présent et très attentif, c'est lui qui nous a guidés vers Akhenaton, d'accord ? C'est lui qui a dit que oui, Akhenaton. Akhenaton, comment il dit ? Akhenaton, d'accord ? Donc, pourquoi est-ce qu'il a hérité d'un trône, d'un pouvoir, d'un royaume, pardon, affaibli ? Parce que c'était un royaume qui n'avait plus d'armée. Où était l'armée ? Ils avaient tous péri dans la mer. Il a hérité donc d'un empire sans armée, sans cavaliers, sans soldats, ce qui fait qu'il a eu énormément de difficultés. Et on avait vu qu'il a dû, à un moment donné, s'exiler. Et c'est là qu'il a démarré son parcours à travers les mers, à travers les océans. Et c'est là, pendant ses voyages, qu'il a rencontré Ya'juj ou Ma'juj. Donc ça, c'est le résumé qu'on avait vu la dernière fois. C'était le dernier thème qu'on avait abordé concernant Ya'juj ou Ma'juj et concernant Dhul-Qarnayn principalement. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça ne va pas être long, 15 minutes, 20 minutes, mais je vous assure, je vous le dis comme ça, préparer un programme là-dessus, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que ça, ce n'est pas un livre de religion, ça. Ce n'est pas un livre où il y a Coran et Hadith. C'est un livre de géographie, de géologie, de tout ce que vous voulez qu'on n'aime pas. Et en plus, traduit en arabe. Donc, c'est vraiment une galère pour lire les textes de géographie, de géologie, d'histoire. Mais en finalité, c'est très enrichissant. C'est extrêmement enrichissant. Maintenant, c'est un sujet complexe, comme on a dit. Assez complexe, assez compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose d'essentiel pour le iman. Parce que si Allah Azza wa Jal, enfin, je ne sais même pas de quoi on va parler, on essaie de déterminer les quatre endroits cités, les quatre lieux géographiques cités dans le Sourate Kahf, qui sont Matli' al-Shams, le levant, Maghrib al-Shams, le couchant, l'endroit Bayna al-Saddain, entre les deux montagnes, et l'endroit où le barrage a été construit, je ne dis pas le mur, le barrage a été construit par Dhul-Qarnayn. Les quatre lieux géographiques sont cités dans la Sourate Kahf. Et l'objectif, en quatre séances, Inch'Allah, c'est de déterminer à chaque fois un de ces lieux géographiques. En commençant ce soir, on va respecter l'ordre de Sourate Kahf, du verset 86, « Hatta idha balara maghrib al-shamsi » et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla précise le soleil se couchait dans une source boueuse? Et dans l'interprétation de la tafsir, une source bouillante. S'il y a cette précision, c'est que c'est un lieu géographique qui n'est pas commun. Parce que le soleil, de n'importe quel endroit, voit le soleil se coucher. Mais là, Allah Azza wa Jalla précise, il donne une indication. C'est-à-dire que c'est un paysage, permettez-moi, ou un endroit avec une caractéristique particulière. Et ce savant, il s'est attardé sur les différents indices qu'il y a de le verser, et il a fait les recherches, il a même voyagé dans différents pays, du Sri Lanka jusqu'aux Maldives, pour trouver où est ce fameux pays du couchant. On continue, et auprès d'elle, c'est-à-dire dans cet endroit, il trouva une peuplade impie. Une peuplade, une population impie qui ne croyait pas en Allah. Et là aussi, la personne doit faire des recherches maintenant pour déterminer qui étaient ces habitants et quelle était leur religion. Et déterminer exactement la date. Hada. Donc ça c'est le premier sujet qui nous intéresse, déterminer le premier endroit visité par Dhul-Qarnayn dans ses périples, Maghrib al-Shamsi. Et on a dit que si Allah Azza wa Jal n'a pas donné d'indication, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt dans ses commentaires, dans ses hadiths, n'a pas donné d'indication sur l'endroit précis où est allé Dhul-Qarnayn, c'est qu'il n'y a pas un réel intérêt pour le iman. C'est pas quelque chose qui va augmenter notre iman, c'est pas quelque chose qui va nous faire prendre conscience, non. Si c'était d'une quelconque importance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait expliqué. Mais comme, donc c'est pas un sujet prioritaire, mais comme on essaie d'étudier la vie de Dhul-Qarnayn pour mieux comprendre l'histoire de Gog et Magog, sachant que c'est notre sujet, dans ce cas, il est intéressant de s'y pencher 15 ou 20 minutes juste pour avoir une idée. Mais là encore, on appelle ça dirasa tahliliya. C'est une étude, c'est une thèse que la personne a faite. Ce n'est pas un ilmi yaqin, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas une science sûre à 100%. C'est pas qu'on dit que voilà, j'ai appris que Dhul-Qarnayn est parti aux Maldives. Exactement. On ne peut pas dire ça. Mais vu les descriptions qu'il y a dans les versets, vu la situation géographique et l'histoire des premiers hommes dans ces endroits, on peut dire que ça correspond à peu près à cette région du monde. D'accord ? Donc, premier point. Concernant donc le première étape du périple de Dhul-Qarnayn, on a besoin de 10 minutes pour ça. La personne, dans ses recherches, elle dit qu'il a recherché les quatre lieux. Il dit, mais le plus compliqué, c'était celui-là, Maghrib al-Shamsi. Elle dit, Maghrib al-Shamsi, jusqu'à quelques temps avant la parution du livre, il n'avait pas d'indication précise et il allait donc faire son livre en indiquant Matla al-Shamsi, le levant, l'endroit où le barrage a été construit, mais rien d'autre. Mais ensuite, subhanallah, avec un voyage, hein, il a découvert certaines choses et donc il arrivait vers des conclusions. Juste pour donner une idée, à un moment donné, pour voir comment la personne est méthodique, méticuleux dans ses recherches. Il dit que pendant ses recherches, ses thèses l'orientaient vers le Sri Lanka, que cet endroit correspondrait peut-être au Sri Lanka. Mais il y a deux choses énoncées dans, en résumé, hein, deux points énoncés dans les versets, qui font que ce pays, le Sri Lanka, hein, ça ne peut pas correspondre, ça ne peut pas correspondre à Matla al-Shamsi, à Maghrib al-Shamsi plutôt, le couchant, c'est-à-dire en rapport avec le coucher du soleil. Si je ne me trompe pas, selon l'opinion de certains savants, ce serait au Sri Lanka que Adam, corrigez-moi si je me trompe, avait retrouvé Hawa, oui ou non, dans cette région du monde. Donc on aurait pu se dire que c'est un endroit historique, tout. Non. Il dit qu'il y a deux choses qu'il n'a pas trouvées. Dans le verset, on décrit justement une source boueuse ou alors une source bouillante. Il a dit qu'il n'a rien vu dans ce pays. Il a visité le pays pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui rapproche du verset. Il dit que ben, il n'y avait pas cette indication concernant cité de le verset dans ce pays. Donc, selon lui, ce n'était pas le Sri Lanka parce qu'il n'y avait pas de source, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'eau boueuse. Quand le soleil se couche, bref, il n'y avait rien qui correspondait à ce que le verset citait. Et deuxièmement, il est arrivé dans, mais ça on va voir en développant, dans toutes ses études, il est arrivé à la conclusion que les deux lieux géographiques visités par Dhul-Qarnayn, le couchant et le levant, se trouvent sur, comment on appelle encore ça, subhanallah, l'équateur. C'est bien ça, non? La ligne équateur, au milieu. Et le Sri Lanka ne se trouve pas sur l'équateur. Donc, il allait avancer cette thèse, je dis bien une thèse, mais en analysant, il a vu qu'il n'y a pas les descriptions du verset et que, sachant que tant le levant que le couchant, ça doit être des pays sur l'équateur et le Sri Lanka ne s'y trouve pas, donc il a écarté cette thèse. Donc ça, c'était juste petite anecdote pour montrer que la personne est extrêmement méthodique. Son but, c'était pas juste de donner un résultat, parce que c'est le seul apparemment qui a écrit et qui a fait autant de recherches sur ce sujet, mais c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se rapproche le plus de la vérité. Et le point, l'indication la plus importante, c'est justement fi aynin hamia. Trouver, que veut dire source boueuse ou alors source bouillante. Selon certains moufassirines, le mot hamia, C'est le même terme qui est utilisé dans le verset où Allah Azza wa Jal décrit comment il a créé Adam alayhi salam min salsalim min hama'im masnoun. Donc c'est en rapport avec la boue, avec la terre. Selon d'autres mufassirines, commentateurs du Coran, il parle également d'une terre ou de l'argile de couleur noire. Et selon un troisième commentaire, on parle d'eau chaude, que le soleil se coucherait dans un endroit où l'eau est extrêmement chaude. Aynin hamia ay harra hamia bima'na harra. Donc il y a trois tafsirs, trois interprétations. Et lui, il va essayer de trouver l'endroit, le lieu géographique qui correspond exactement à cette description du Coran. Il est arrivé également à la conclusion, là je vais un petit peu vite et un peu dans tous les sens, que si on parle d'une eau chaude, ben les pays où la mer est la plus chaude, ce sont les pays qui sont sur l'équateur. Parce qu'il y a plus de soleil et l'intensité du soleil est plus forte. Donc, après, là on ne va pas donner trop de détails, mais après plusieurs pistes de réflexion, il est arrivé à la conclusion que sur l'équateur, il trouve un archipel composé de plusieurs îles qui correspondraient certainement à ce qu'est cité dans le Coran, et il va entreprendre un voyage pour aller vers les Maldives. Alors, franchement, aller aux Maldives, c'est la grande forme. Hein. Si vous voyez un peu les documentaires sur les Maldives, les hôtels 5 étoiles, mais lui, il n'est pas parti pour ça. Il est parti pour essayer de comprendre, voir ce qu'il voulait bien voir et comprendre cette fameuse description sur Aynin Hamia. C'est ce qui intrigue. Parce qu'en même temps, c'est une précision, mais on ne peut pas l'appliquer à n'importe quel endroit. On n'est pas obligé de le connaître non plus, mais comme c'est un chercheur, il a voulu essayer de trouver une réponse. Donc, il est arrivé à trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que certainement, c'est un endroit qui doit, où il devait, à cette époque, avoir un volcan. Je vous dis bien, ce sont des hypothèses, d'accord ? Un endroit où il devait y avoir des volcans. Et justement, les îles Maldives, ce sont des îles volcaniques qui ont émergé il y a, là j'ai pas les chiffres, parce que là je vais dans tous les sens, donc je perds mes chiffres, en 2005, voilà, environ il y a 3350 années, il dit qu'il est possible qu'à cette époque, quand Dhul-Qarnayn a visité, est arrivé vers cet endroit, il a vu, quand le soleil se couchait, comme de la fumée qui sortait, quand le soleil se couchait, ce qui est un tafsir proche du verset, et donc selon lui, ça pourrait correspondre à cet endroit. Un endroit sur l'équateur, un endroit volcanique, où certainement il y avait des volcans encore en activité. C'est une hypothèse. Également, ce qu'il a trouvé également d'intéressant sur les îles Maldives, c'est la présence de geysers. C'est comme ça qu'on prononce. Des sources d'eau chaude qui remontent. Alors là, il y a 7 pages sur le phénomène geyser. Alors, se taper 7 pages de géologie et tout, c'était une épreuve, d'accord ? Bon, on a zappé quelques pages aussi, mais c'était vraiment pour comprendre, c'est quelqu'un qui a fait un effort énorme, et au moins, on ressort avec quelque chose. On se dit que, ben voilà, j'ai une idée, ben déjà, voir les deux extrêmes, les deux endroits extrêmes qui étaient visités par Dhul-Qarnayn, ça nous donne une idée jusqu'à ce qu'il atterrisse vers cet endroit où il y avait Gog et Magog. Donc, aux îles Maldives, il a trouvé également ces geysers, d'accord ? Et donc, il dit que c'est peut-être ça aussi, avec cette source d'eau chaude, vapeur, fumée, etc., etc. Ce qui fait que quand le soleil se couche, il y a donc ce phénomène. C'est peut-être ce qui a été vu également par Dhul-Qarnayn. Il dit, et au moins, dernier signe, on pourrait dire, tous les enfants commencent à dormir, il dit que cette fois-ci, quand on parle d'eau chaude, il n'y a pas d'endroit où l'eau est plus chaude que les pays ou les îles sur l'équateur, d'accord ? Et donc les îles Maldives fait partie de ça. Alors là, j'ai résumé ce qu'on devait dire en 20 minutes, en 2 minutes. Donc, alhamdoulilah, on essaie d'avancer, de gagner du temps. Comme je dis, hein, ça n'augmente pas le iman, tout ça. Mais ça nous donne une certaine indication, une approche sur le parcours de cet homme extraordinaire, Dhul-Qarnayn. Pourquoi il est extraordinaire ? Pour ses voyages, bien sûr. Pour avoir protégé l'humanité de Dhul-Qarnayn, bien sûr. Mais extraordinaire également pour avoir invité vers le tawhid. Et vous savez, par la suite, j'ai vu des reportages sur, comment appelle le camarade là ? Akhenaton. Et on parle réellement d'un seul homme, un seul empereur qui n'adorait pas le soleil. Un seul empereur, on parle de l'empire égyptien, d'accord, qui n'adorait pas le soleil, qui n'était pas donc polythéiste. Et on a vu que lui, il était mouahid, il adorait Allah Azza wa Jal parce qu'il avait trouvé la foi avec Moïse, avec Moussa alayhi salam. Et c'est le seul pharaon dans les descendants des, j'ai pas les termes, des Hyksos, si je ne me trompe pas. Comment on dit en français les Hyksos? Il y a un terme? Tu n'as pas vu tout le documentaire? D'accord. Et c'est le seul dans les descendants dont on n'a pas retrouvé, qui n'a pas été, qu'on n'a pas momifié. Voilà. On n'a pas retrouvé le sarcophage. Parce que le fait de momifier, de mettre dans un sarcophage, c'est un rite funéraire propre aux croyances et à la religion des Égyptiens dans l'Égypte antique. Mais lui, comme était Mouahid, il ne suivait pas ce rite. Donc lui, c'est le seul dont le corps n'a pas été trouvé à qui est un nom, donc quatrième du nom. Son nom, franchement, m'échappe. Hein, j'ai beaucoup de mal avec ce nom-là. D'accord ? Donc, voilà, concernant les indices géographiques qui font que ce savant-là, selon lui, l'endroit qu'il a visité devait être proche des îles Maldives. Ça, c'était donc les preuves géographiques. On finira en deux minutes par les preuves, maintenant, historiques. On a dit déjà, il faut savoir que à partir du... Alors, il y a des chiffres en romain. Alors là, c'est compliqué. À partir, oui, le V, c'est le 5. À partir du 14e siècle, il y avait le grand savant Ibn Battuta, hein, qui est musulman, arabe, et, subhanallah, expert en géographie, donc, qui a fait des recherches sur ces lieux, ces régions géographiques. Et ensuite, au 17e siècle, beaucoup d'Anglais et beaucoup de Français qui ont fait des recherches et qui sont partis jusqu'à ces endroits. Mais il a dit que celui, le savant, qui a écrit, qui a fait les recherches les plus brillantes concernant les îles Maldives, c'est un Scandinave. Et qui s'appelait, tenez-vous bien, Thor Heyerdahl. Mais c'était un Thor sans marteau, celui-là. D'accord ? Et donc, il a écrit un livre sur The Mystery of the Maldives, qui était donc traduit en anglais, et que lui, il a généreusement traduit en arabe, à notre grande joie. Et il dit que, voilà, selon lui, cette île est habitée depuis 3500 années. C'est énorme, ça. C'est énorme. Cette région du monde est habitée, selon ce chercheur, français, anglais et scandinave, donc depuis 3500 années. Donc ça remonte vraiment à l'histoire, à l'époque de l'Égypte antique. C'est-à-dire que par rapport aux dates, ça colle exactement avec descendants de pharaons qui seraient allés vers cet endroit. Supposez que, allez, je dis n'importe quoi, hein, supposez qu'on dit que c'était la Réunion, Maurice, Madagascar. Ça colle pas. Depuis combien de temps la Réunion existe? Depuis quand c'est peuplé? Ça colle pas. Mais là, il dit que, selon l'étude, et là, on ne va pas dire que c'est lui qui a dit ça pour écrire son livre. Non, c'est des études qui ont été faites par des non-musulmans, d'accord? Et qui disent que les îles Maldives sont peuplées depuis plus de 3500 années. Donc, ça correspond exactement avec l'époque de Pharaon, des descendants de Pharaon, et certainement de Akhétanon, quatrième donc du nom. Et petit indice, il dit que les moyens de locomotion, les pirogues utilisées par les gens aux Maldives, c'est la même architecture que les pirogues utilisées par les Égyptiens. Déjà vu comment ils se déplaçaient ? Regardez peut-être Astérix et Cléopâtre. C'est les mêmes bateaux pirogues qu'utilisaient les Égyptiens. Quand même, il y a une distance au Pacifique, les Maldives, d'accord ? Et l'Égypte, mais il dit que c'est un point commun. Mais bon, ce n'est pas par rapport à ça qu'il est arrivé avec ses conclusions. C'est plutôt par rapport aux dates, hein, et aux coïncidences troublantes qu'il y a. Il dit également que les Maldives, comme il y a un rapport direct avec le soleil, étant l'endroit le plus proche ou le premier lieu, avec une différence de plus 12, si je ne me trompe pas, hein, par rapport au décalage horaire. Et donc, il dit que ces chercheurs sont arrivés à la conclusion que des peuples, il y a... Maintenant, il parle de 4000 ans. D'autres chercheurs qui parlent de 4000 années. Des peuples adorateurs du soleil se seraient rendus vers cet endroit qui est, on ne va pas dire proche du soleil, mais sans rapport, sachant que certainement les premiers ou les derniers rayons du soleil touchent ces endroits, sont partis vers ces endroits pour construire des lieux de culte pour l'adoration du soleil. Et il dit que on a retrouvé ce monsieur-là, Thor Thorabdal, d'accord, on n'a pas de chance avec les noms ce soir, il a retrouvé des pierres sur lesquelles étaient gravées, d'accord, on va pas dire des hiéroglyphes, ce serait trop proche, mais gravés, hein, des représentations du soleil, preuve que les premières populations adoraient le soleil. Donc ça correspond également avec les religions des Égyptiens. Il dit que des personnes qui sont venues de ces régions du monde pour aller vers cet endroit. Donc voilà, en gros, on pourrait dire que ce qu'on aurait pu expliquer en 30 minutes, mais sans réel intérêt pour la foi. Mais comme, je répète encore une fois, on est intéressé par ce sujet, par la personnalité de Dholkarnayn, tous les indices que nous avons cités, géographiques et historiques, nous amènent vers la conclusion que le premier lieu visité par Dholkarnayn, comme on appelle le lieu Maghrab al-Shams, le couchant, ce serait une région sur l'équateur, proche donc de l'océan Pacifique certainement, et par rapport aux descriptions géographiques, proche des îles Maldives, ce serait cet endroit qu'il était là, qui était venu en premier, et ensuite son voyage, et là il a trouvé ses populations. D'accord ? Et ensuite il a continué son périple jusqu'à le levant, l'endroit où le soleil se lève, enfin l'expression, le Matla al-Shamsi, et là il va rencontrer d'autres populations. Et à chacune de ces populations, il va inviter vers Allah. Comme Allah lui dit, donc on dit qu'il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, Allah dit, Ozul Kharnein, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, il parle des populations qu'il a trouvées dans cet endroit. Nous le châtirons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. C'est-à-dire qu'il a fait la da'wa, il a invité les gens vers le tawhid, vers l'adoration d'Allah. Thumma atba'a sababa. Puis il suivit une autre voie, et l'autre voie, on verra dans deux semaines, dans deux mardis, inshallah. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Il en fut ainsi et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Donc, le deuxième endroit, le levant, on verra Inch'Allah la prochaine fois. J'espère que quelques petites explications nous aura un peu plus éclairé sur la personnalité de Dholkarnayn, de son parcours. Et avec ça, on comprendra le travail énorme qui a été fait par cet homme, jusqu'à ce qu'on va voir l'endroit où il a rencontré la population de Gog et Magog, où il a construit à peu près l'endroit où il aurait construit ce barrage. Et on va voir comment c'était un bienfaiteur pour l'humanité. Et mieux on comprend, mieux on réalisera l'impact du retour de Dholkarnayn sur le dunya, et qu'on réalisera vraiment que quand ils vont sortir, comme le dit le verset, ils vont déferler et tout détruire sur le passage. Et que face à cette armée hyper puissante, Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants de se battre ou de résister. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas de la lâcheté, alors qu'à Badr, à Uhud, les musulmans ont toujours été moins nombreux, et dans la plupart des campagnes, d'accord ? Mais là, c'est différent. Parce que là, c'est une créature spéciale. Et Allah, il informe les croyants que personne ne peut lutter ou contrer ces personnes. Cette créature, cette race, qui attend le retour sur la terre depuis Allah seul sait combien d'années. Et Allah les a envoyés pour tout détruire d'ailleurs. Et après qu'ils auront tout détruit, Allah Azza wa Jal les détruira par le doua, par les invocations de Isa alayhi salam, et avec tout ce qu'on avait cité, d'accord, les insectes et les oiseaux qui vont prendre le corps. Et après ça, la hikmah d'Allah, c'est que tout ce qui était détruit, tout ce qui était mauvais, sera lavé, exactement comme le déluge de Noé, de Noé alayhi salam, et là sera la période de baraka pour toute l'humanité. Jazakumullah khair. Donc, Inch'Allah, mardi prochain, Mufti Assad va faire un programme. Je ne connais pas encore le thème. Il va choisir le thème lui-même. Et nous, on se revoit, Inch'Allah, dans deux mardis. Wa tawfiqillah billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khair.